Donc voilà, maintenant on va passer à notre forum annuel. Et je, pour cela, je vais laisser la parole à Claire, qui est des hôpitaux de Dijon.
Voilà, alors, la grève à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP, a été un succès. Il y a eu plusieurs milliers de manifestants jeudi, entre 5 000 et 8 000. Et 34% de grévistes selon la direction de la PHP elle-même. Les personnels des hôpitaux de Paris se sont vraiment mobilisés. Leur colère n'était pas uniquement sur les RTT, mais sur le fait que cette attaque sur leurs horaires de travail intervient dans une situation qui est déjà intenable. Ce qui fait que malgré les difficultés habituelles à faire grève, les assignations qui sont les réquisitions à l'hôpital, la pression des malades à soigner, cette fois, les hospitaliers ont répondu présent à l'appel des syndicats et se sont mobilisés massivement. Et on peut espérer d'ailleurs que la mobilisation de jeudi prochain, le 28 mai, soit encore plus massive. Alors Martin Hirsch, l'actuel directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a choisi de déclencher la bagarre en s'attaquant il y a quelques semaines à l'organisation du temps de travail dans les hôpitaux parisiens. Il a décidé d'économiser entre 20 et 25 millions à la PHP en réduisant la journée de travail et en supprimant des RTT au personnel. Ce qui est remarquable, c'est qu'en attaquant sur ce thème vraiment général, il met toutes les catégories de personnel, tous les hôpitaux et tous les syndicats dans le coup. Il s'agit évidemment d'un choix délibéré. Hirsch et le gouvernement ont engagé un bras de fer là-dessus, en sachant qu'ils allaient à l'épreuve de force et en se disant qu'ils allaient la gagner. Et en faisant cela, évidemment, il prend un risque et la mobilisation de jeudi montre que le risque est réel. Mais s'il gagne, il gagnera cette fois, par contre, pour tous les hôpitaux de la France. Et s'il réussit à faire en sorte qu'on vienne travailler 35 heures avec plus du tout de RTT ou des RTT en moins, ce qu'il sait, c'est que vu la situation actuelle dans les hôpitaux au niveau des horaires, le personnel sera obligé de pallier. En particulier au niveau du temps de transmission entre les différentes équipes, en prenant sur leur temps personnel. Dans un premier temps, il vise donc à faire accepter officiellement une dérégulation des horaires, qui existe déjà, mais qui n'est pas officielle. Voilà. Il y a donc une double bagarre, une bagarre syndicale sur les horaires et sur leur déréglementation, à laquelle les syndicats ont raison de répondre, et d'autre part, une bagarre politique sur la nécessité pour les personnels de se sacrifier pour faire des économies, pour payer la dette hospitalière. Au niveau des horaires, dans le contexte actuel, réduire la journée de travail, alors qu'il n'y a déjà pas assez de personnel, ça veut forcément dire que les personnels seraient obligés une fois de plus de compenser, de faire plus de boulot ou de faire le même boulot en moins de temps. Alors il y a des pancartes dans la manifestation de jeudi, proclamaient les RTT c'est pour souffler. Et pour nous c'est vrai que ça veut vraiment tout dire parce qu'en fait il n'y a déjà pratiquement plus du tout d'horaires cadrés à l'hôpital. C'est pas tant sur les 35 heures que les gens ont réagi, qu'à l'idée de ne même plus avoir les quelques jours de repos auxquels ils tiennent et qui leur permettent de tenir. En réalité, plus personne ne sait réellement ce que ça veut dire de travailler avec des horaires stricts, encadrés par la loi et de les faire respecter. Si dans les entreprises, les travailleurs savent exactement combien d'heures ils font à la minute près, combien d'heures la direction leur a fait faire en plus, savent se les faire payer, si elles figurent sur leur fiche de paye ou pas, etc. Nous, à l'hôpital, ça n'a plus le moindre sens pour beaucoup de travailleurs. La plupart d'entre nous n'y comprennent déjà plus rien. Et en réalité, dans la tête de bien des soignants et en particulier des plus jeunes, il n'y a déjà plus à l'heure actuelle aucune règle qui régisse leur temps de travail. On fait des semaines de 50 heures, on passe du jour à la nuit dans la même semaine. Tous les jours ou presque pour arriver à faire le boulot et à passer ses consignes, on reste après l'heure, un quart d'heure, une heure, le temps qu'il faut pour finir. On est rappelé sur nos jours de repos. On est prévenu quelquefois du jour au lendemain qu'il faut changer d'horaire. À Paris, pour le moment, apparemment, ce qui a le plus changé, c'est la génération des horaires variables, alors qu'auparavant, c'était des équipes fixes, et de la polyvalence. Avec les 35 heures, il n'y a pas eu non plus d'embauche, et les CDD se sont multipliés, et les jeunes sont ainsi trimballés d'intérim en CDD et en contrat. La technique de direction hospitalière depuis des années a été de laisser pourrir les situations en comptant sur notre dévouement. Ne pas remplacer les départs en retraite, les arrêts maladie, les congés maternité, et dire à chaque cadre de service et à chaque équipe de se débrouiller en interne pour boucher les trous du planning et pour assurer les soins, puisqu'il est entendu qu'on ne peut pas laisser les patients. Les cadres font pression, bien sûr, pour boucher les trous dans les plannings dus aux sous-effectifs, et elles savent à qui elles demandent de revenir sur leur repos ou de rester faire encore 4 heures au-delà de leur journée, mais elles n'ont guère d'autre choix. Et bien souvent, la pression du boulot en lui-même suffit. Il y a des patients en face, il n'y a pas de solution, et c'est les filles elles-mêmes qui disent qu'elles vont rester pour aider. Cela a conduit à la généralisation des plannings aberrants. Chacun étant contraint de gérer la misère et de trouver un fonctionnement malgré sous-effectifs, il y a maintenant dans chaque hôpital presque autant d'horaires et de déroulés que de services. Certains font des journées de 7h30, d'autres 7h36, 7h50, d'autres 12h, les nuits sont 10h, et la plupart d'entre nous, en fait, mélangent même un peu de tout ça, et parfois dans la même semaine. Ce qui fait qu'au bout du compte, plus personne ne peut dire ce qu'est une journée de travail normale à l'hôpital. Et quant au RTT, ce n'est pas qu'on les capitalise, c'est qu'on n'arrive même pas à les prendre. Rien qu'à la PHP, le nombre d'heures supplémentaires accumulées que les personnels ne peuvent pas récupérer se monte déjà à 2 millions. Et c'est la même chose dans tous les hôpitaux du pays. Hirsch s'attaque au RTT au nom des économies qu'il est contraint de faire. Et il espère dans un premier temps réussir à économiser 20 millions d'euros par an. Mais il insinue en même temps que la situation des hôpitaux parisiens est telle qu'il leur faudra imposer une cure d'austérité tous azimuts, car la PHP est au bord du gouffre financier, comme pratiquement tous les hôpitaux du pays qui se seraient endettés à plus de 40% et qui, sans l'aide de l'État, seraient à peine capables d'assurer leurs frais de fonctionnement actuellement. Alors la question qui se pose, c'est comment se fait-il que les hôpitaux en soient arrivés là? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Répondre que c'est la crise, c'est ne rien répondre. C'est une réponse fourre-tout qui s'apparente plus à une pression permanente que tout le monde subit aujourd'hui, mais qui n'explique pas comment ça s'est passé réellement. Or, il se trouve que dans les hôpitaux, le fil conducteur de cette aventure est extrêmement clair. La plupart du temps, nous, personnel, n'avons rien vu venir, à part les pressions multiples et quotidiennes. Il nous était difficile de mesurer où tout ça allait durant les 15 dernières années. Et pendant qu'on nous mettait en demeure de devenir rentable et d'économiser sur tout, la modernisation a été faite à coups de dépenses somptuaires. Il y a eu les grands chantiers hospitaliers, les regroupements d'hôpitaux, tout un tas de nouveaux équipements, utiles ou pas, les équipements informatiques qu'il a fallu renouveler du jour au lendemain, les chariots automatiques pour transporter les prélèvements, etc., etc., etc. Les hôpitaux se sont surendettés, les directeurs ont dépensé des sommes folles, et la loi Bachelot est arrivée pour leur permettre de le faire sans même en référer au conseil d'administration, ce qui a donné lieu par exemple à des choses comme le centre hospitalier sud-francilien dont un étage entier est resté vide pendant près d'un an. Les banques, de leur côté, poussaient à l'emprunt, car les hôpitaux étaient des débiteurs parmi les plus sûrs, appuyés par des grosses structures, adossés à l'État, et que les intérêts de la dette hospitalière, pour eux, c'était une véritable manne financière. Mais le rapport de la Cour des comptes d'avril 2014 a tout d'un coup éclairé plus précisément ce que nous venions de vivre et la politique que les dirigeants ont voulu appliquer à l'hôpital. Pour la Cour des comptes, l'origine de cet endettement remonte très clairement au plan d'État mis en place en 2002 et nommé Plan Hôpital 2007. L'objectif étant de réduire les subventions étatiques et d'obliger les hôpitaux à devenir rentables, afin de faire enfin rentrer ce monde hospitalier immense, presque un état dans l'état, dans le monde réel, c'est-à-dire dans le marché capitaliste. Comme pour les collectivités locales, ces institutions qui brassaient tant d'argent et ne pouvaient exister aux yeux des capitalistes en dehors de leur sphère. L'État, à leur service, les y a aidés, en mettant en place un plan qui, en même temps qu'il réduisait les subventions, préconisait l'investissement par l'emprunt. Ce qui s'est traduit par un endettement systématique pendant près de 10 ans, faisant tripler le montant de la dette des hôpitaux, avec une progression spectaculaire de 15% par an pendant 10 ans. Et, je cite la Cour des comptes, « cette progression spectaculaire trouve son origine dans une politique de soutien à l'investissement privilégiant le financement par l'endettement dans le cadre des plans nationaux Hôpital 2007 et Hôpital 2012. C'est clair, c'est net. Le rapport de la Cour des comptes poursuit. Le choix des projets ainsi aidés a été réalisé sans prise en compte suffisante des considérations d'efficience. En clair, investissez comme vous l'entendez. Et la plupart du temps, ce sont les pressions des financiers qui ont décidé d'une partie des projets. Au point que la soi-disant modernisation du parc hospitalier s'est souvent transformée en des projets surdimensionnés et peu utiles. La Cour des comptes incrimine également les gestionnaires hospitaliers qui auraient eu, encore une fois, je cite leur rapport, une vision exagérément optimiste de l'accroissement d'activité et de sa traduction en termes de recettes grâce à la tarification à l'activité. On ne pouvait pas être plus clair. Mais une fois rentré dans le marché capitaliste, endetté jusqu'au cou et plein de projets modernes et magnifiques, il a fallu déchanter lorsqu'est arrivée la crise de 2008. Et les banques ont fait comme elles ont fait partout, restreint les crédits, augmenter les taux d'intérêt en fonction de la note des hôpitaux. On a découvert alors qu'une partie des emprunts avait été fait à partir de produits financiers douteux qui ont explosé dans l'affaire Dexia et dernièrement dans la spéculation du franc suisse. Alors là, changement de cap, plutôt tardif. Austérité systématique, surtout en direction du personnel, réduction du personnel, surexploitation de ceux qui travaillent, fermeture de lits et de services entiers. Voilà l'aventure que viennent de connaître les hôpitaux. Ils sont enfin rentrés dans le monde capitaliste. Et ils sont enfin aux mains des financiers. Comme le sont les États, qu'ils soient grecs ou français. Et l'État voudrait nous faire payer cette dette forcée et convaincre les personnels que s'ils veulent que les hôpitaux vivent, il faudra consentir à faire des sacrifices. Et nous, comment l'avons-nous vécu ? Pour ceux qui sont les plus anciens, nous mesurons que cette affaire a commencé bien avant les plans de 2002. Ça faisait un moment qu'on nous expliquait dans les services, ça remonte à loin, que les hôpitaux étaient des institutions non rentables, qui dépensaient aveuglément, sans une réelle notion de la rentabilité, puisque les hôpitaux n'étaient pas soumis à la loi du marché. Ils ne connaissaient pas cette saine concurrence qui vous permet de savoir si vous avez trop produit ou pas assez, et s'il y a gâchis social. Ce discours est le fruit d'une campagne nationale. Les milieux financiers ayant l'art de se faire entendre des hauts cadres de l'État, des médias, au point que du sommet à la base, une nuée de financiers, de commissaires aux comptes, d'auditeurs de budget, de comptables, ont fait en permanence le siège des directions hospitalières, ont comptabilisé les actes médicaux, accrédité ou non les comptes, fait des recommandations de bonne gestion, d'amélioration de la productivité hospitalière, préconisant d'introduire le lean management, comme dans l'automobile, pour faire travailler les personnels soignants plus à la chaîne, de faire la part belle à l'ambulatoire, même si ça veut dire de fermer encore des lits, de réduire la durée d'hospitalisation, de faire du chiffre et encore du chiffre. Maintenant qu'ils sont dans la place, les financiers décident de tout. Aujourd'hui, les politiciens et les directeurs sont chargés de nous convaincre que cette fois, l'hôpital doit se mettre à l'ambulatoire à tout craint. C'est la nouvelle tarte à la crème, il faut réduire la durée d'hospitalisation, faire sortir les patients au plus vite, fermer des lits pour augmenter le turnover dans les lits qui restent et les rentabiliser. Ça veut dire moins de place pour hospitaliser les gens qui en ont besoin, alors qu'il en manque déjà à l'heure actuelle, et moins de personnel bien sûr. Et la dernière trouvaille est carrément d'installer des chambres d'hôtel à l'intérieur des hôpitaux, où serait assurée une surveillance médicale, ça c'est sur le papier, parce qu'il n'y a aucun personnel qui est prévu. Et bien sûr, à la charge des patients, c'est-à-dire réservée à ceux qui pourront se les payer. La bagarre réelle qui est menée, elle est là. Derrière l'arbre des 35 heures se cache la forêt de la finance. Et cette bagarre-là, elle ne peut pas se résoudre sur le seul terrain syndical et revendicatif, parce qu'elle est politique. Les travailleurs des hôpitaux ont raison de réagir comme ils l'ont fait, et eux seuls sont en mesure de changer la donne. Se battre sur le terrain des horaires a l'avantage de mettre tous les hospitaliers dans le coup, tous mobilisés pour un même objectif. Mais il faudra, au cours de la bagarre, s'ils sont prêts à la mener, qu'ils sachent qu'au-delà des horaires, ils sont menacés par les financiers. n'est pas question de le passer sous silence. Et ceux qui oublient cet aspect-là dans la situation actuelle des hôpitaux le font volontairement pour ne pas incriminer la bourgeoisie elle-même. Cette politique, on la connaît parfaitement au fond parce que c'est la même que nous impose le gouvernement de gauche face aux diktats de la finance et des grands patrons qui licencient sans vergogne et s'enrichissent comme jamais. Les travailleurs des hôpitaux auront besoin de savoir que leur lutte se situe avant tout sur un terrain politique et d'être convaincus qu'ils ne doivent pas payer une dette qui n'est pas la leur. Quand on travaille à l'hôpital, les plus anciens, ceux de ma génération, les plus jeunes, tous, on a le sentiment que l'idéologie ambiante, jour après jour, c'est qu'il faut faire de l'hôpital une entreprise comme les autres, qui doit être rentable ou disparaître. Une entreprise qui n'est plus destinée à soigner, mais à faire des profits. Par tout un tas de mesures insidieuses, de campagnes harceleuses, on essaye de nous faire changer d'état d'esprit et de faire rentrer le fonctionnement des hôpitaux dans l'économie de marché. Mais malgré tout ça, et peut-être paradoxalement en raison de la taille et de la centralisation de ces grandes structures, qui a été encore amplifiée par les politiques d'agrandissement, l'hôpital reste le pivot central de la santé pour la plupart des gens. Dans la tête des gens, et un sondage récent l'a encore montré, l'hôpital reste le lieu essentiel destiné à soigner la population. C'est aussi le cas dans la tête des personnels. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont accepté de faire de tels horaires et de cumuler les heures supplémentaires sans espoir de les récupérer un jour. Et sur le terrain, au quotidien, il y a une gestion collective des connaissances, des plateaux techniques, un partage des savoir-faire, un besoin de communiquer et de transmettre les expériences qui fait contrepoids et qui fait que l'hôpital reste dédié aux soins. Même si ces gros organismes attirent toute la finance, même si on veut les rentabiliser à tout prix, les hôpitaux publics ont encore de beaux restes, surtout dans la tête des gens, dans ce que les patients en attendent et dans ce que les soignants veulent en préserver. Alors malgré tout, même si les capitalistes essayent de les récupérer et d'en faire un lieu de profit, ils n'y parviennent pas tout à fait à le transformer selon leurs vœux, parce que c'est un capitalisme en crise qui les récupère, qui a certes l'avidité pour les avaler, mais qui n'a pas le souffle pour les faire vivre. Ce qui les fait vivre, ce sont les gens, ceux qui y vont et ceux qui les font fonctionner. Je termine simplement. Dans cette bagarre, certes syndicale, mais essentiellement politique, qui nous est imposée, au final, l'issue dépendra de la colère et de la conscience des travailleurs des hôpitaux que c'est bien cela qui se joue au-delà de leurs horaires. Et ça, j'en suis convaincue, si ça ne passe pas dans cette bagarre, de toute façon, cela passera dans la prochaine ou dans une autre. Voilà.
J'inscris qui veut prendre la parole. Donc, j'ai déjà trois interventions.
Bon, j'étais tout à fait d'accord avec l'exposé. Ceci dit, il y a des problèmes qui sont concrets, qui se posent à nous aujourd'hui. Et il y a un an, à la même fête, nous constations tous que dans différents hôpitaux, en particulier dans la psychiatrie, il y avait déjà une offensive contre les RTT. Je pense à l'hôpital Paul Guiraud en banlieue parisienne, l'hôpital de Caen. Après, il y a eu Mascarolles du côté d'Uzès. Donc, c'est une offensive. La différence cette année, c'est qu'aujourd'hui, c'est à la PHP où il y a 75 000 personnes qui travaillent. Donc, et tout le monde est conscient que là, si la PHP recule, ça sera la porte ouverte pour les hôpitaux pour lesquels on n'a pas encore sabré dans les RTT, en particulier sur 5 jours de congé. Alors aujourd'hui, on a eu une grande manifestation la semaine dernière, 6 000 personnes, dynamique. Une autre jeudi prochain. Mais le problème qui se pose à nous aussi, c'est qu'est-ce que va devenir ce mouvement, hein ? J'entends déjà parler dans certains milieux syndicalistes d'une grande manifestation centrale de la santé. Très bien, très bien. En intersyndical, très bien, très bien. Syndicat tout fini, très bien, très bien. Mais on a connu il n'y a pas très longtemps à Radio France un conflit difficile, dur, avec des syndicats unis. Et puis il y en a un, comme à chaque fois, qui va signer, ou deux, et les autres disent, bah, puisqu'ils ont signé, nous on n'y peut rien. Et ça se termine comme ça, avec des rancœurs, des collègues, voilà. Donc c'est pour ça que je pense aussi qu'on doit discuter aujourd'hui de l'avenir. Comment nous les révolutionnaires, dans ces structures, moi je travaille au Kremlin Bicêtre, on doit intervenir, on n'y arrivera peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas là on a quand même une situation qui est quand même favorable à nous, parce que là il y a une lutte qui était importante, motivée et dynamique, pour ne pas se retrouver dans un mois avec des syndicats qui vont aller, parce que Martin Hirsch, dès le premier jour de la manifestation, a déjà écrit aux syndicats. Dans mon hôpital, on a une assemblée générale, ils ont déjà été voir la direction pour dire qu'il faut négocier le paiement des jours de grève. La direction a dit, attendez, la grève n'est pas finie, on verra l'après hein, quand même. Hein. Et des débrayages quotidiens de 55 minutes. Alors ici, on est tous des syndicalistes, des révolutionnaires, on a tous fait des grèves, on sait très bien ce cinéma, comment ça va se passer. Il y aura peut-être une grande manifestation aux Champs-Élysées contre le ministère de la Santé, contre Marisol Touraine, contre François Hollande. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on discute entre nous pour éviter que ça se termine comme ça, avec des collègues déçus, parce qu'une fois de plus, les syndicats nous auront trahis.
Merci. Bravo. Mes camarades, on n'a pas de micro-baladeur, excuse-nous.
Voilà. Oui, alors Christian de Sud Santé Sociaux et militant du NPA. Donc je suis tout à fait d'accord avec les interventions précédentes. Et moi, j'ai été vraiment frappé par le rassemblement devant la PHP de jeudi, parce que c'est vrai que c'était historique et que j'avais pas vu ça depuis longtemps. Hein, j'avais participé aux manifestations pour le... Oui, d'accord. J'avais participé aux manifestations pour la convergence, qui ne regroupait que certains syndicalistes, puisque la CGT y compris était contre, et que je m'étais même fait agresser dans la manifestation et traité d'anti-CGT. Et j'ai été absolument ravi de voir que jeudi dernier, eh ben, effectivement, il y avait l'ensemble des syndicats qui appelaient, que les manifestants, que moi j'ai estimé à 8000, étaient tous unis, c'est-à-dire que, y compris physiquement, ils n'étaient pas derrière des banderoles syndicat par syndicat, mais qu'ils étaient mélangés. Et qu'ils le scandaient tous, le slogan, hein, ni amendable, ni négociable, retrait. Hein, et ça, je pense que c'est très important. Il y avait une fraternité, je dirais, qui était absolument éclatante. Et on a voté, les 8000 personnes qui étaient là, ont voté à point levé, effectivement, le maintien de l'orientation et le fait de convoquer des assemblées générales, non seulement à la PHP, mais dans l'ensemble des hôpitaux en France, pour essayer de faire décider partout où c'est possible la grève jusqu'au retrait, hein, d'appeler à un rassemblement ou une manifestation le 28. Donc je pense que c'est vraiment un événement politique important, et je pense que les révolutionnaires, effectivement, hein, doivent agir là-dedans, et c'est pas seulement un problème de syndicalistes. Et je pense que notamment à l'intérieur des syndicats, les révolutionnaires doivent se regrouper et regrouper autour d'eux les travailleurs, comme l'expliquait Trotsky dans les syndicats à l'époque de la décadence impérialiste, hein, parce que moi je suis pas pour la charte d'Amiens et pour l'indépendance des syndicats par rapport aux partis, et je pense qu'on a un travail de regroupement à faire à l'intérieur des différents syndicats pour imposer aux directions syndicales qu'effectivement, hein, ça ne se termine pas par une grande manif vide de sens, mais que ça soit la grève qui généralise dans l'ensemble des centres hospitaliers, et qu'on bloque réellement non seulement ce que fait Martin Hirsch à la PHP, mais la loi Touraine.
Bonjour, donc moi je suis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Donc pour l'historique du mouvement, je vous invite à lire le journal de cette semaine et celui de la semaine dernière. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est sûr, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une mobilisation comme ça, en tout cas dans mon hôpital, mais aussi dans les autres. Et peut-être qu'après cette manif du 21, où pour les collègues, c'était incroyable le nombre qu'on était, et c'est vrai que c'est arrivé qu'une fois depuis 88, voilà, donc c'est vrai que c'était énorme. Maintenant, je crois que l'Assemblée Générale qu'on a faite avant-hier, donc le lendemain de la manif, vendredi, les questions pratiques commençaient à se poser, et c'était bien parce que les collègues dans bien des secteurs pour la manif du 21, elles se sont portées grévistes, et puis les cadres ont assigné comme elles ont assigné, alors des fois un peu trop et puis des fois plutôt normalement, donc mais là les questions à l'AG, c'était quand même comment on fait jeudi prochain pour qu'il y ait moins d'activité, comment on fait pour limiter les blocs, pour limiter les consultations, pour limiter les hôpitaux de jour. Alors elle comptait un peu sur l'intersyndicale qui devait monter à la direction pour dire vous me faites chier, il faut jeudi prochain on est en grève. Et puis en même temps, elles ont compris que c'était chacune avec ses collègues à plusieurs, qu'il fallait mettre la pression. Et que du coup, la grève, c'était ça aussi. C'était un peu tous les jours s'affronter ensemble, hein, au cadre quand il le fallait, mais pas toujours, aux médecins qui finalement ont globalement tendance à dire que de toute façon. Vu le nombre de RTT, comme on entend à la télé, à la radio, dans les journaux, toute la propagande de Hirsch et du gouvernement, à dire mais elles ont tellement de RTT, au bout d'un moment, ça n'a aucun sens, on n'a qu'à les enlever. Donc, voilà. Et quant aux histoires, la propagande sur le fait que supprimer ces RTT et faire bosser un peu moins, ça permettrait d'économiser des postes, franchement, ça fait rigoler. Oui, ça fait rigoler tout le monde, les filles. Ça les révolte, ça les fait rigoler. En même temps, ça les énerve profondément parce que, évidemment, ça économisera rien du tout. Ce qui tient le plus, c'est le fait que même des jeunes en forme, disent, mais sans les RTT, moi, je vais pas tenir. Voilà. On en est là aujourd'hui, la copine l'a bien expliqué. Et quelque part, le fait que le mouvement puisse continuer et puisse prendre de l'ampleur, c'est aussi comprendre que y a que nous qui pouvons le continuer, et ça repose sur notre mobilisation et sur notre NIAC, notre motivation.
Excusez-nous, hein. Elle a l'habitude de se propulser à la tribune.
Moi, je suis à l'hôpital Saint-Antoine. Je suis aussi à Lutte Ouvrière et à la CGT. Ce que je voulais intervenir, c'est pour dire tous ceux qui ont participé à la manifestation pour les 35 heures à la PHP, ils étaient super regonflés. Et ce qui a été bien, c'est que y avait quand même des collègues qui y allaient par principe et qui se disaient bon, faut quand même qu'on montre qu'on n'est pas d'accord. Et là, il y a quand même eu un petit peu un changement d'état d'esprit dans les têtes, où il y avait quand même des gens qui ont envie d'y retourner le 28 mai, hein, et qui là se disent on a peut-être une chance de gagner là. Et que je pense que c'est sur ça qu'il faut s'appuyer, parce que là, on l'a vu, Hirsch, il est super emmerdé. C'est pas moi qui le dis, c'est les Échos qui le disaient il y a deux jours. Donc, ça, c'est des signes. Touraine, qui le soutient du bout des lèvres, c'est des signes aussi. Bon, après, c'est quelle politique à avoir, quoi. Parce que nous, en tant que militants révolutionnaires, on en a, mais c'est aussi s'appuyer sur tous ceux qui ont envie. C'est s'appuyer sur tous ceux qui sont dans les hôpitaux, et même les militants syndicaux. Moi, je suis à la CGT, et dans ma boîte, ils ont envie d'y aller. À la différence, justement, où là, on a quand même vu une césure, on a vu que c'était cassé au moment de la manif, où on avait quand même le haut du panier, là, je sais pas comment on dit, mais CGT, FO, Sud, Bon, ben, eux, ils n'avaient pas envie d'y aller. Par contre, les militants des boîtes, dans beaucoup de boîtes, ils avaient envie d'y aller. Et quand ils ont gueulé au 28, c'était pour dire il faut une nouvelle perspective, il faut autre chose. Moi, je suis à CGT. L'USAP, qui est quand même l'organisation syndicale qui regroupe tous ces syndicats, ils étaient où pendant la manif, hein ? Nous, on est en train de se bagarrer pour essayer de parler au micro. Hein ? Moi, je me suis fait arracher le micro. J'ai une copine, elle a été coupée au micro. Alors, il y a qui ? Hein ? Mais par contre, tous ceux qui arrivaient à parler, eh ben là, c'était pour dire il faut y aller. Il faut qu'on ait des perspectives. Il faut que le 28, on soit de nouveau dans la rue. Alors, il y en avait qui criaient à la grève générale. On sait ce que c'est la grève générale dans les hôpitaux. Tant qu'on n'est pas prêt à dire vos assignations, on n'en a rien à foutre, ça veut rien dire. Alors, il faut qu'on ait des perspectives. Il faut qu'il y ait du monde, encore plus le 28. Et que tous les militants, tous ceux qui ont envie d'y aller, eh ben, il faut qu'on se regroupe pour aller dans ce sens-là et dire c'est nous, dans les boîtes, qui devons décider dans quel sens il va le mouvement. Parce que, en plus, ce que je voudrais rajouter, c'est que ça peut changer dans la tête. Parce que dans l'état d'esprit des gens, les hôpitaux, on n'y touche pas. Ben, il faut leur montrer qu'on ne va pas nous y toucher. Et qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là.
Stéphane, je travaille aux hôpitaux de Saint-Denis. Simplement pour dire que ce qui se passe en ce moment à la PHP est extrêmement important, ça a été dit. Mais si ça passe sur la PHP, si on n'arrive pas à se battre collectivement contre cette réforme, on peut craindre le pire pour pas mal d'hôpitaux derrière. Parce que derrière, les résistances sont moindres. Mais en même temps, il y a un boulot de syndicaliste, je pense, à faire en ce moment sur les hôpitaux. Il y a un feu qui couve, et au-delà bien sûr de la RTT. Sur notre hôpital, par exemple, les RTT, on les a perdus depuis 2009, enfin, ça fait pas mal de temps, mais les conditions de travail sont déplorables. Je vais pas vous faire un tableau sur les conditions de travail, ça a été dit. Mais en tout cas, là, nous, en tant que syndicalistes, on a un boulot à faire, c'est-à-dire faire de l'agitation essayer de faire des AG, essayer de dire que là, ça bouge à la PHP, qu'il faut qu'on s'y mette tous et toutes. Et on est en train de le faire. On a des services là qui sont en train, c'est pas très loin là, c'est sur Saint-Denis, qui sont partis en grève reconductible, notamment les urgences, depuis vendredi soir. Donc il faut élargir les mouvements de partout, parce que ça peut pas être simplement un combat de la PHP. Ça doit être le combat de tous les hôpitaux de France. Et ça, c'est très important. Mais après, on a aussi des habitudes syndicales qui ont été prises. Nous, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Mais on est resté jusqu'à 4h du matin vendredi soir avec les équipes, parce que les grèves, c'est les équipes qui les mettent en place. C'est pas les permanents syndicaux qui doivent faire partir les grèves, c'est avant tout les équipes. Mais quand le lendemain, on a des équipes syndicales qui passent pour dire « Vous êtes en grève, mais vous devez faire comme d'habitude, c'est lamentable. » Alors que les équipes elles-mêmes, elles ont déjà mis en place des choses, notamment pour pas codifier, pour toucher au porte-monnaie, parce que c'est là aussi où on peut attaquer les hôpitaux. C'est en touchant au porte-monnaie, parce qu'ils ne pensent qu'à l'argent, nous on pense aux soins. Donc il y a des choses à faire. Et aussi ça, je le dis parce que moi je suis militant à Sud, mais on a besoin que les militants convaincus de la CGT intègrent la convergence des hôpitaux en lutte. Chaque fois qu'il y a une lutte, il faut que cette convergence soit renforcée. Parce que c'est très important, il faut qu'à la base, on arrive à créer une convergence des hôpitaux sur toute la France.
Excuse-moi. C'est pas grave. Le camarade qui vient d'intervenir, voilà, moi je suis du CHU de Rouen. Et quand j'ai appris le mouvement des copains là, sur la paix, tout de suite j'ai dit à mes camarades du syndicat, moi je milite au syndicat Sud, il y en a certains là. Oh merci. Non mais je peux rester debout quand même.
Tu peux rester debout.
Et je leur ai dit, écoutez, là ce qui se passe à la paix, si ça passe, c'est sûr que là. Nous, on est bon pour les CHU de toute la province. Donc, j'ai proposé en intersyndical une assemblée générale du personnel de tout l'hôpital. Alors, les réponses des autres syndicats, c'est rien, aucune réponse. Et la CGT a répondu « Ah non, mais la paix, c'est pas nous, hein, c'est leur mouvement. Par contre, il y a une grande journée nationale le 25 juin. » Bon. Là, on va remettre les choses au point. De toute façon, si les autres syndicats ne nous suivent pas, nous, on a décidé, à notre commission exécutive du syndicat, on fait une assemblée générale du personnel pour bien prévenir que ce qui se passe à la paix, c'est un test. Il faut savoir qu'ils vont le généraliser dans tous les CHU de toute la France. Ils commencent, je veux dire que nous, à Rouen, les jeunes embauchés, ils les mettent aux 35 heures. Ils travaillent 35 heures, pas de RTT. Et c'est une bagarre à chaque fois, service par service, pour dire que ce petit jeune qui est embauché, il faut le mettre comme les autres, avec pas faire 35 heures, mais il travaille 38 heures, 38h30, et il aura ses RTT. Et c'est à chaque fois une bagarre. Donc ils essayent, hein, ils grappillent. Là, ils font un beau test à la paix. J'espère que ce mouvement va durer et qu'il faut que tous les hôpitaux, franchement, de France, faut faire des assemblées générales pour dire c'est un test. Si ça passe là à la paix, c'est foutu pour tous les CHU. Donc il faut donner en admiration ce qu'ils font et dire nous on suit. C'est une bagarre, hein, y a du boulot.
Merci. Juste une chose, faut pas leur dire c'est foutu, faut leur dire ce sera plus dur. Parce que, comprenez-moi, comprenez bien, on en est peut-être au début. Pour vous donner l'état d'esprit des syndicats, eux disent qu'on en est à la fin, que le mouvement a déjà trop duré. C'est un maire permanent syndical qui me l'a dit à moi. Donc, s'il me le dit à moi, il a le culot de dire au premier qui a pris la parole à l'avenue Victoria, disant il faut que ce soit ni négociable ni amendable, et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on lâche rien, il lui dit, eh bien, ce mouvement a déjà beaucoup duré, il ne va pas durer longtemps, il est en train de diminuer. Voilà l'état d'esprit des militants de l'USAP. Peut-être pas tous, mais enfin, sachez-le. Mais ceci ne nous arrête pas. De même que devant l'avenue Victoria. C'est pas l'USAP qui a fait le succès de cette manif. C'est pas Sud. C'est pas FO. Ils ont fait après ce qu'ils ont pu pour contrarier ou s'opposer ou prendre en marche ou le mouvement. Très bien, qu'ils fassent. Je veux dire, toutes les autres années dans ce débat hôpitaux, rappelez-vous, on a dit s'il y a des luttes, il faudra regrouper les travailleurs les plus en lutte, les plus en tête, les plus radicaux, ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Eh bien là, c'est pas s'il y a des luttes, mes camarades, il y a une lutte. Et donc, à nous, autant qu'on le peut, de mettre en avant, comme il y a eu à d'autres époques, les gens qui sont vraiment révoltés contre cette situation, qui n'en peuvent plus. Ce qu'on disait tout à l'heure, qui disent on avait juste nos RTT pour reprendre le souffle, on veut nous les retirer, même s'ils n'ont que ça dans la tête, eh bien il faut qu'on soit avec eux pour que leur colère puisse s'exprimer jusqu'au bout. La journée du 28 qui va venir, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça n'a pas été sans mal. Et tant qu'il y aura un syndicaliste en état de marche, et j'en suis un, je sais de quoi je parle, eh bien les travailleurs ne pourront pas être tranquilles sur leur mouvement. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté. On l'a dit, on est, nous, des révolutionnaires. On sait que les syndicats ne sont pas des appareils pour propager les luttes. On sait qu'ils sont là pour les contrôler. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, ce n'est pas une surprise. Ils vont essayer aujourd'hui comme avant. Je ne parle pas de... Évidemment, les militants syndicaux, c'est des gens d'abord comme tout le monde. Et il y en a qui auront envie d'aller jusqu'au bout, il y en a qui n'auront pas envie. Il y en a qui suivront l'appareil, il y en a qui ne suivront pas. Mais bon sang, camarades, on s'en tirera si c'est nous qui arrivons, avec des travailleurs, à imposer une politique qui ne dépend pas de ces confédérations, de ces boutiques, de Sud, de la CGT, de la CFDT, de machin ou de truc, mais que ce soit les travailleurs des services, des hôpitaux qui disent « Nous, tel hôpital, on s'est mis en bagarre contre le projet, j'allais encore dire Robert Hirsch, Martin Hirsch, eh bien, on ne rentrera pas au travail avant que Martin Hirsch ait déchiré son projet. » Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Est-ce qu'on peut, au début d'un mouvement, se dire « on va gagner » Attendez, le mec qui me dit ça, moi je ris. Personne, aucun dirigeant ne peut dire quand il commence s'il va y arriver. Mais moi je sais qu'il y a une chose, comme vous, il y a un peu de vapeur. Il y a un peu de vapeur, il n'y a pas encore visiblement des gens capables
de dire « Allez, foutez le camp les dirigeants syndicaux, on vous a assez vu, on va prendre votre place ». Non, il n'y a pas encore ça. Il y a eu ça à d'autres époques, là il n'y a pas encore. Ça peut venir demain, ça peut venir le 28, ça peut venir le 26. Je vous signale que nos amis syndicalistes vont tous aller négocier dès le 26. Il faut le savoir, mais il ne faut pas que ça nous effraie. S'il y a réellement un mouvement dans les services, c'est autour de nous qu'il va se cristalliser. C'est autour de nous que les travailleurs vont définir leurs revendications, pas les miennes, pas les vôtres, pas celles des syndicats, les leurs. Et c'est comme ça, quand ils auront défini leurs revendications, qu'ils iront jusqu'au bout. Je suis un révolutionnaire, moi. Je suis pour que ce soit les travailleurs qui prennent leur lutte en main, et puis après la société en main. Pas moi, pas vous, eux, tous les travailleurs, l'ensemble des travailleurs. Et ça, c'est là qu'on verra s'il y a un peu de vapeur le 28, ou s'il y en a, comme d'habitude, moyennement. Ben voilà. Eh ben, faudra pas être déçu, ce sera pour la prochaine. J'ai une camarade qui me disait, tu sais, dans les hôpitaux, les mouvements, c'est un diesel. Ça démarre, puis ça cale. Et puis ça redémarre, et puis ça recale. Et puis ça démarre, et puis ça recale. Et puis après, ça prend de l'ampleur. Eh ben, elle a peut-être raison. En tout cas, moi, je suis pour essayer. On a le 28 devant nous. Faut faire, qui l'a dit, le maximum pour s'entourer de travailleurs, descendre le plus nombreux dans la rue à ce rassemblement, avec si possible tous la volonté que ça ne s'arrête pas, que ce ne soit pas une négociation bidon de plus. Voilà. Et si on arrive à ça, avec des gens qui nous aident à reprendre ces mots d'ordre, qui les diffusent parmi leurs collègues, qui mettent les services... Quand même, un aspect intéressant, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu 40, voire 60% de grévistes dans les hôpitaux. Et c'est des jeunes. Rappelez-vous ce qu'on dit des jeunes. Ils ne sont pas politisés, ils ne s'intéressent pas, etc. 60% en grève. Si c'est pas s'intéresser, ça, c'est quoi? Alors à nous de les trouver. À nous de les trouver, à nous de les regrouper. Et à nous de les faire se regrouper. Et puis, voilà, les jeunes de Beaujon qui manifestent. Eh bien, écoutez, avec eux, on peut y arriver. Voilà, on peut y arriver si on ne cède pas aux pressions des uns et des autres, si on ne se laisse pas fourvoyer par un syndicat ou par un autre, si on maintient notre volonté. Et alors, je finirai sur un truc que j'ai toujours pensé, mais je suis content, il y a des copains qui l'ont dit. Oui, c'est un banc d'essai. Eh bien alors que les autres hôpitaux n'attendent pas. Nous, on a attendu. Eh bien que les autres hôpitaux se disent, il y a quelque chose. Allons-y. Par solidarité, déjà, faisons des AG avec la paix. Et puis peut-être plus que par solidarité. La convergence, moi, je ne sais pas. Mais je sais que, vous comprenez, quand il y a partout des comités ou des AG de travailleurs, après, les unir, faire un mouvement d'ensemble, c'est une formalité. C'est d'abord faire un mouvement qui compte. Et croyez-moi, rien que faire un mouvement, on a encore du pain sur la planche. Mais c'est du bon pain, ça nous change. Ça nous change des autres années où on attendait. Bah là, on peut y aller.
Je suis désolée, il va falloir qu'on s'en arrête là parce qu'il y a la locution derrière. Mais je voulais revenir sur ce que je disais au début. Effectivement, moi, je partage l'avis du camarade sur les syndicats. C'est pas une surprise, on les connaît, etc. Cette bagarre sur les 35 heures, on a raison de l'amener, il faut l'amener. Maintenant, moi je suis convaincue que ce qui sera déterminant et ce qui est plutôt regonflant, c'est de constater qu'il y a cette colère, alors même qu'il y a déjà une déréglementation des horaires, alors même qu'on nous a mis dans la tête toutes ces années que l'hôpital, c'était plus fait pour soigner, c'était fait pour faire du fric, qu'il fallait plier, qu'il y avait la dette, qu'il fallait rembourser, que c'était au personnel de le faire, etc. C'est ça qu'il y a derrière. Les 35 heures, les RTT, effectivement, on va les défendre et il faut pas les laisser partir comme ça. Mais parce que derrière, c'est ça qui se joue. Derrière, ce qui se joue, c'est la mainmise des financiers sur l'hôpital. C'est le fait de rentrer l'hôpital dans le marché capitaliste et d'en faire une entreprise comme les autres qui rapporte. Et moi, je trouve regonflante cette colère parce que la colère, elle n'est pas tant sur les RTT que sur le fait qu'on n'a même plus les moyens de soigner actuellement. Et que nous enlever les RTT, c'est encore une couche qui se rajoute à ça. Mais ce à quoi les personnels s'accrochent, c'est à ce qu'ils mettent dans l'hôpital et c'est à ce qu'ils veulent préserver dans l'hôpital. Et bien moi, je suis convaincue que le rôle des révolutionnaires que nous sommes dans ces bagarres-là, c'est de renforcer cette conscience-là et de leur éclairer la politique qu'il y a derrière. Parce que C'est pas la crise qui fait que les hôpitaux sont endettés, c'est pas l'air du temps, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est une politique qui a été menée sciemment par l'État, avec les banques derrière, qui ont imposé des emprunts, et des emprunts à des taux de plus en plus forts, et des emprunts en faisant dépenser de plus en plus, et encore, et encore, et encore. On nous présente la note maintenant, mais c'est pas quelque chose de naturel, ça a été vraiment une mise à la redresse des hôpitaux, et une mise sous la coupe des financiers, et maintenant c'est eux qui décident de tout. Et moi, je pense que dans les bagarres à venir, qu'elles soient sur le terrain des 35 heures, que ce soit celle-là ou que ce soit la suivante, ce qu'il faut voir, c'est les financiers qui tirent les ficelles derrière, parce que c'est eux qui décident de tout. C'est eux qui décident de la politique des hôpitaux actuellement, c'est eux qui imposent leur diktat aux directeurs d'hôpitaux. Et ce qu'on vit dans les services, on n'en a pas forcément conscience, mais tous les jours, c'est qu'on se bagarre contre ça. On n'y arrivera que si on en a conscience jusqu'à la moelle. Et je pense que notre rôle à nous, c'est de parler de ça et de parler de cette dette et de parler du fait qu'on n'a pas à la rembourser et du fait que c'est une dette artificielle. Parce que si on rentre dans l'idée que les hôpitaux vont mal, qu'il faudra bien faire des efforts, eh ben on est foutu. Voilà. On est foutu parce qu'on enterrine. Et les syndicats, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'enterrinent. Ils vont négocier les modalités, un peu plus, un peu moins, un peu poivré, un peu sucré, les RTT, pas les RTT, etc., etc. Mais ils partiront sur le fait que, de toute façon, il y a une situation de crise financière, qu'il faut bien la gérer et qu'il faut faire des efforts. On est obligé de le prendre cette façon politique-là. Et moi, je pense que voilà, il faut absolument qu'autour de nous, on fasse comprendre ça aux travailleurs qui sont mobilisés, parce que là, ils peuvent l'entendre et finalement, c'est ce qu'ils ressentent. Voilà. Est-ce que tu veux entendre les gens ?